Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez denses qui traitent d'une double tension autour du catholicisme.
Oui, d'un côté, on a des critiques assez vives sur des sujets comme l'identité, la richesse, des points sensibles.
Et de l'autre, cette question qui revient toujours, les contradictions apparentes dans la Bible elle-même. Comment on gère ça?
Exactement. C'est un défi interne, si on veut.
Alors, notre source principale aujourd'hui, c'est un document intitulé « Défense catholique contre païens et harmonie biblique », assez explicite comme titre.
Oui, très direct. Il a deux parties, en fait. Une première qui réfute des critiques spécifiques attribuées à un certain Pierre Joly.
Présenté comme une réponse à une vision païenne, c'est ça?
C'est ce que le texte dit, oui. Et la deuxième partie, c'est une défense de la cohérence de la Bible. C'est clairement de l'apologétique.
D'accord. Donc notre objectif, c'est de décortiquer entre tout ça comment cette vision catholique particulière, parce qu'elle est spécifique, répond aux objections externes et comment elle traite ses propres textes fondateurs quand il semble...
Se contredire, voilà. Comment on harmonise tout ça, selon eux?
Allez, on plonge dedans.
Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir la logique interne qu'ils essaient de construire. On va suivre leurs deux grands axes.
D'abord, les réponses aux critiques externes.
C'est ça. Identité, richesse, universalité, immigration. Il y a pas mal de thèmes. Violence, islam aussi.
Et ensuite?
Ensuite, on verra comment ils abordent les dissonances apparentes de la Bible, les principes d'interprétation qu'ils proposent, et quelques exemples concrets. La Genèse, les chiffres, les récits de Pâques, Paul.
Bon, commençons par le premier volet alors. Ces réponses aux critiques attribuées à Pierre Joly. Le texte pose ça comme un débat d'idées sur l'identité et la richesse. Comment ça s'articule?
Alors, sur l'identité, le texte insiste beaucoup sur la nuance. Il dit que le message du Christ, ne rejette pas les liens naturels, la famille biologique, etc.
Ah oui, comment il justifie ça?
Ben, il prend l'exemple de Matthieu 12 quand Jésus désigne ses disciples comme sa vraie famille.
Oui, ceux qui font la volonté de Dieu.
Exactement. Le texte dit que ça montre une priorité pour la fraternité spirituelle, mais ça n'annule pas les autres liens. C'est pas anti-identitaire au sens où certains l'entendent aujourd'hui selon l'auteur.
D'accord, une question de priorité. Et pour la richesse?
C'est un peu pareil. La critique ne viserait pas la richesse elle-même, mais l'attachement, le fait d'en être esclave. Il cite Marc 10, 24, la difficulté pour ceux qui se confient dans leur richesse.
Donc on peut être riche, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place.
C'est l'idée. Il rappelle Luc 11, 41, faire l'aumône du superflu, pas du nécessaire. Il convoque les pères de l'Église, saint Jean Chrysostome qui blâme l'esclavage des richesses, saint Hilaire de Poitiers pour la mesure.
Et même des autorités plus tardives.
Oui, Léon XIII, saint Thomas d'Aquin, pour dire qu'on ne doit pas prendre sur son nécessaire vital ni sur celui de sa famille.
Donc toujours cette stratégie de distinction, c'est pas la chose, c'est le rapport à la chose. Est-ce qu'on retrouve ça sur l'universalité du message chrétien face aux origines juives de Jésus?
Tout à fait. Le texte reconnaît bien sûr que Jésus est israélite. Il cite Romains 9 là-dessus. Mais il affirme que la mission universelle, aller enseigner toutes les nations, de Matthieu 28, elle était voulue dès le début par Dieu.
Ce n'est pas une invention de Paul après coup, selon cette lecture.
Non, pas du tout. Et puis l'auteur utilise l'ironie en demandant un peu ben, en quoi adorer Zeus ou Jupiter, avec leurs histoires mythologiques, ce serait mieux pour fonder une identité solide. C'est une pique contre la perspective païenne qu'il critique.
Ok, je vois. Cette clé de lecture distinguait l'essence de l'usage ou la disposition intérieure de l'acte, elle semble centrale. Voyons si ça s'applique à un sujet plus social, comme l'immigration. Quelle est la position défendue?
Alors là, la ligne est, disons, assez restrictive. Le document affirme que la tradition catholique n'impose pas une hospitalité aveugle, sans discernement.
Ah oui, ok. Sur quoi il s'appuie?
Sur un passage de la deuxième épître de Jean, qui dit en gros de ne pas accueillir ceux qui apportent une autre doctrine. Le texte l'interprète comme un avertissement contre ceux qui pourraient nuire à la foi ou à la communauté.
D'accord. Donc le devoir d'assistance, il serait limité.
Aux étrangers nécessiteux et honnêtes, dit le texte, en citant une constitution papale, Exsul Familia Nazaretana. Et pour renforcer ça, il utilise des exemples historiques.
Lesquels?
Des expulsions par Saint Louis ou Isabelle la Catholique. Le texte souligne que l'Église de l'époque n'aurait pas protesté. Il mentionne même une liste de personnes à expulser au Concile de Latran V en 1514.
C'est assez spécifique comme argument.
Oui, très. Et il y a une nuance importante là. L'auteur critique l'Église actuelle, qu'il appelle Léon XIV en nom de code, visiblement en suggérant qu'elle n'est plus fidèle à cette doctrine traditionnelle.
Ah, d'accord. Ça situe le propos dans un courant plutôt traditionnaliste, critique envers les évolutions récentes.
Exactement. C'est une critique de ce qu'il perçoit comme un laxisme moderne, y compris sur ce poids de l'immigration.
On voit bien comment des textes et l'histoire sont mobilisés pour justifier une approche prudente, dirons-nous. Ça contraste avec d'autres interprétations du message chrétien. Et justement, quid du pardon face à la violence, la justice?
Ben là aussi, une distinction. Oui, le Christ prêche le pardon. Mais, rappelle le texte, il est aussi mort pour ses amis, Jean 15. Ça suggère une certaine loyauté prioritaire.
Et surtout.
Surtout, le pardon spirituel des offenses n'efface pas la nécessité de la justice sociale, de la punition des méfaits.
Comment il appuie ça?
Il rappelle que l'Église a longtemps défendu la légitimité de la peine de mort, en citant le catéchisme du Concile de Trente. C'est vraiment séparer la miséricorde divine et l'ordre public terrestre.
D'autres points sont abordés plus vite, non? La Bible et le judaïsme, le mal.
Oui, c'est plus rapide. Sur la Bible, elle n'appartiendrait pas qu'aux Juifs, et tout ce qui vient des Juifs n'est pas mauvais, simple. Sur le mal, distinction classique. Dieu permettrait, voire voudrait, le mal physique, catastrophe, maladie, dans un plan plus large.
Ou comme conséquence du péché originel.
Oui, voilà. Mais il ne voudrait jamais le mal moral, le péché lui-même. C'est une distinction théologique fondamentale.
Le texte réagit aussi à une vision de l'identité française, j'ai cru voir.
Ah ouais. Il rejette ce qu'il appelle la réduction de l'identité française au pain et au camembert.
Une vision un peu cliché, quoi.
C'est ça. Et il met en avant l'apport du catholicisme, la langue, les mœurs, l'art, l'architecture. Tout le raffinement français viendrait en grande partie de là, selon lui. C'est une affirmation forte de l'héritage catholique.
D'accord. Une autre distinction qui semble importante, c'est entre paix et pacifisme.
Exactement. Très important pour eux. Le Christ est pacifique, il aime la paix, heureux les artisans de paix, Matthieu 5, mais il n'est pas pacifiste.
C'est-à-dire?
Pas de refus absolu de la violence.
Non.
Le texte cite l'Ecclésiaste, un temps pour tuer, un temps pour la guerre. Et surtout l'épisode où Jésus dit à ses disciples d'acheter des épées pour se défendre, Luc 22.
Et il s'appuie sur d'autres autorités.
Oui, saint Ambroise, pour distinguer la légitime défense qui est acceptable de la vengeance privée qui ne l'est pas. Donc l'idée, c'est que la violence peut être un recours nécessaire, moralement justifié dans certains cas précis.
Ça s'oppose clairement à une lecture non violente stricte. Et sur des sujets très actuels comme la doctrine sociale ou le climat.
Alors, la doctrine sociale est présentée comme une sorte de troisième voie. Ni capitalisme débridé, ni socialisme collectiviste. Une recherche d'équilibre.
Et le climat?
Là, la position est très tranchée. Pour le texte, le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel. L'homme n'y peut pas grand-chose.
Ah bon? Carrément.
Oui, essayer de le contrer, ce serait comme souffler sur le soleil pour l'éteindre, dit le texte. C'est une affirmation qui va, disons, à l'encontre du consensus scientifique actuel, mais présentée comme une évidence.
D'accord. Et pour finir cette première partie, le rapport christianisme-islam.
L'opposition est présentée comme fondamentale, pas juste des détails. Le texte cite des papes Eugène IV, Calixte III, Benoît XIV, qui auraient qualifié l'islam de secte.
Et il insiste sur quelle différence?
Sur la morale, divorce, polygamie, mariage prépubère, tels qu'ils les interprètent. Et sur la conception du paradis décrite de façon très critique. Le but est clair, marquer une incompatibilité profonde entre les deux.
Bon, si on essaye de synthétiser ce premier volet, on voit une défense assez musclée d'une certaine vision catholique traditionnelle, non?
Oui, c'est ça. Une posture de réaffirmation identitaire.
Avec une méthode assez constante, faire des distinctions, richesse, attachement, paix, pacifisme, utiliser sélectivement des textes bibliques, des pères, des conciles, des exemples historiques.
Pour contrer ce qui est perçu comme des critiques modernes ou externes. Et cette référence à Léon XIV, ça ancre bien le propos dans une critique des évolutions post-Vatican II.
C'est une argumentation structurée, en tout cas, pour légitimer une position catholique traditionnelle face à diverses objections.
C'est exactement ça.
Alors passons maintenant au deuxième volet, l'harmonie de la Bible. Là, le défi vient de l'intérieur. Comment on répond aux accusations de contradiction dans les Écritures elles-mêmes? C'est quoi l'approche de fond?
L'approche repose sur un pilier théologique très fort, l'inspiration divine et l'inhérence de l'Écriture, surtout pour la foi et les mœurs.
L'inhérence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur.
c'est que l'écriture, bien interprétée selon l'intention de l'auteur et le genre littéraire, n'enseigne pas d'erreur en ce qui concerne notre salut. Le texte cite 2 Timothée 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu », et Jean 10, « L'écriture ne peut être anéantie ».
Et il s'appuie sur quelles autorités pour ça ?
Sur le magistère de l'Église, mais en précisant bien près 1958, donc Léon XIII, le Concile de Trente, Vatican I, et sur les pères de l'Église. Le point de départ, c'est donc que les contradictions ne sont qu'apparentes, des dissonances.
Et on peut les résoudre ?
Oui, avec la bonne méthode.
Justement, ce principe d'inhérence étant posé, comment on fait concrètement pour lever ces dissonances apparentes ? Quels outils d'interprétation le texte propose ?
Alors, il y a toute une méthodologie. D'abord, il définit quelques termes clés. L'exégèse, l'étude critique du texte. L'herméneutique, la théorie, les règles d'interprétation. L'inhérence, on en a parlé, et l'inspiration, l'idée que Dieu est l'auteur principal. Comprendre ça, c'est la base de leur logique.
D'accord. Et au-delà des définitions, quelles sont les règles pratiques pour lire la Bible de façon harmonieuse ?
Il y en a plusieurs. Premièrement, le contexte. Toujours regarder le contexte immédiat et plus large. Un verset isolé, ça peut tout dire et son contraire. Les passages parallèles aussi sont cruciaux.
Ensuite ?
Deuxièmement, les genres littéraires. Poésie, histoire, loi, prophétie. On ne dit pas un psaume comme le Code civil. Léon XIII insistait déjà là-dessus.
Très juste. Troisième règle ?
Troisièmement, faire attention aux langues originales, hébreu, araméen, grec, leur subtilité. Par exemple, les temps des verbes en hébreu peuvent parfois nécessiter un plus que parfait en français pour être bien compris, comme pour Genèse 2.19, où on devrait traduire « Dieu avait formé » pour garder la cohérence avec Genèse 1.
Ah, c'est technique mais important. Quoi d'autre ?
Quatrièmement, les généalogies. Elles peuvent sauter des générations. Fils d'eux peut vouloir dire descendant d'eux. Frère peut désigner des parents proches. Et il y a des lois comme le lévirat qui expliquent certaines filiations bizarres.
Le lévirat, c'est quand un homme épouse la veuve de son frère.
Oui, pour lui donner une descendance au nom du défunt. Ça complique les arbres généalogiques. Cinquièmement, les chiffres. Ils peuvent être symboliques, arrondis, ou compter des choses différentes, un compte partiel versus un total.
Et enfin, pour les évangiles.
Sixièmement, pour les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, il faut suivre saint Augustin, chercher l'équivalence de sens. Même événement, mais raconté avec des détails ou un angle un peu différent. C'est complémentaire, pas contradictoire.
C'est une vraie boîte à outils d'interprétation. Est-ce que le document donne des exemples concrets de comment on utilise ces outils ?
Oui, bien sûr. Il prend des cas classiques, par exemple Genèse 1 et 2. L'ordre de création semble différent.
Oui, les plantes avant l'homme, puis l'homme avant les plantes et les animaux.
Voilà. L'explication proposée, c'est pas deux récits contradictoires, mais un diptyque. Genèse 1, c'est la vue d'ensemble, cosmique. Genèse 2, c'est un zoom sur le sixième jour, centré sur l'homme dans le jardin d'Éden.
Et les noms de Dieu qui changent ? Elohim, puis Yahweh Elohim ?
Ça correspondrait au registre le Créateur Tout-Puissant, Elohim, puis le Dieu proche, celui de l'Alliance, Yahweh Elohim. Et pour les animaux, en Genèse 2, l'astuce du plus que parfait implicite, Dieu avait formé, règle le problème chronologique.
D'accord. Et au passage, le texte en profite pour...
rejeter l'évolutionnisme, jugé incompatible avec la bonté parfaite de la création initiale.
Et pour les chiffres ou les filiations compliquées, un exemple.
Pour les chiffres, il prend 1 Corinthiens 10 qui parle de 23 000 morts en un jour et Nombre 25 qui parle de 24 000 morts au total pour le même épisode.
La solution ?
Ben, 23 000, c'est le compte d'un seul jour. 24 000, c'est le total sur toute la durée de l'événement. Faut juste lire précisément ce qui est compté. Pour les filiations, il rappelle le sens large de fils, frère et l'effet du lévirat.
Un autre point sensible,
oui.
Les récits de la résurrection. Les détails varient d'un évangile à l'autre.
Oui, le nombre d'anges, qui étaient là, quand exactement. L'approche ici, c'est la complémentarité.
C'est-à-dire ?
Les évangiles racontent différents moments d'un événement complexe. Plusieurs groupes de femmes, des allers-retours au tombeau, des visions différentes à des moments différents. Chaque évangéliste choisit ce qu'il rapporte.
Donc en reconstituant une chronologie fine, on peut tout faire tenir ensemble.
C'est l'idée. On retrouve saint Augustin et son équivalence de sens. Et la liste des apparitions que Paul donne en 1 Corinthiens 15 s'est vue comme une sorte de preuve factuelle publique.
On voit bien le travail d'harmonisation à l'œuvre ici, pour tisser un récit cohérent. Et pour Paul, on oppose parfois Paul et Jacques sur la foi et les œuvres.
Ah, le grand classique. D'abord, sur les récits de sa conversion à Damas, acte 9, 22, 26, les petites variations s'expliqueraient par le fait que Paul adapte son récit à son public.
Logique. Et sur la justification ? Foi seule, Paul, ou foi et œuvre, Jacques ?
Pas d'opposition réelle, dit le texte, mais complémentarité. Paul s'opposerait à l'idée que les œuvres de la loi mosaïque, les rituels, etc., soient la cause du salut. Le salut vient de la foi en Christ.
Et Jacques ?
Jacques, lui, critiquerait une foi morte, purement théorique, qui ne produit rien. Les œuvres dont parle Jacques, la charité, la transformation de vie, ce serait le fruit, la preuve d'une foi vivante, pas sa cause.
Donc ce n'est pas contradictoire, mais dynamique, la foi agissante.
Exactement. C'est une tension féconde, pas une contradiction logique. Le document mentionne aussi des preuves externes, comme les manuscrits de Qumran.
Ah oui, la mer morte. En quoi ça aide ?
Ben, le grand rouleau d'Isaïe trouvé à Qumran est beaucoup plus ancien que le texte hébreu qu'on avait avant, le texte massorétique. Et pourtant, ils sont incroyablement similaires.
Ce qui prouverait ?
La très grande fiabilité de la transmission du texte biblique au fil des siècles. Malgré les copies et le temps, le texte est resté stable. C'est présenté comme une confirmation archéologique.
Et pour ceux qui voudraient creuser, avec cette méthode, le document recommande des outils ?
Oui. Pour le français, la traduction de l'abbé Crampon, version 1905 ou 1923, jugée très littérale. Il mentionne aussi, mais avec prudence car c'est protestant, un livre de Druquet et Remers sur les contradictions apparentes, utile pour l'analyse de cas précis.
Et les règles d'or à retenir ?
Toujours le contexte, le genre littéraire, les parallèles, les chiffres, les coutumes... et interprété à la lumière du magistère traditionnel tel que défini par ce courant.
Donc, si on résume cette deuxième partie, pour cette approche, les dissonances apparentes de la Bible ne sont pas des erreurs, mais des difficultés qu'on peut résoudre.
Oui, par une lecture informée, méthodique, qui applique des règles d'interprétation spécifiques issues de la tradition et guidées par le principe de l'inspiration et de l'inhérence.
C'est une démarche très construite. Tout à fait.
Donc, en conclusion, ce qu'on a analysé, c'est une défense sur deux fronts. D'un côté, répondre aux critiques externes en réaffirmant des positions catholiques traditionnelles. De l'autre, défendre la cohérence interne de la Bible avec une méthodologie d'interprétation propre.
Le message de fond étant que les problèmes viennent souvent d'une lecture trop rapide ou qui n'utilise pas les bonnes clés.
C'est ça. Une lecture qui ne respecterait pas les règles du jeu, en quelque sorte. L'image finale que le texte propose, c'est celle de l'écriture comme une cathédrale de vérité, soluble, cohérente, et dont la transmission fiable serait confirmée par l'archéologie, comme à Qumran.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en porter de cette discussion assez dense ? On a eu un aperçu détaillé d'une manière spécifique d'aborder des textes religieux complexes, leurs critiques, leurs tensions internes.
Oui, c'est une fenêtre sur une logique argumentative et des outils herméneutiques particuliers. Il s'agit de comprendre comment ce courant de pensée fonctionne, pas forcément d'y adhérer.
Ça donne des clés pour mieux saisir une certaine apologétique catholique, disons, traditionnelle ou conservatrice.
Exactement.
Et peut-être une question à réfléchir un peu plus loin. Au-delà du contenu spécifique, qu'est-ce que cette démarche nous apprend ? Cet effort pour chercher des règles internes, une cohérence profonde dans un corpus ancien comme la Bible. Est-ce que ça peut nous éclairer sur la façon d'aborder d'autres grands systèmes de pensée, philosophie, droit, littérature ?
C'est une bonne question. Est-ce qu'on cherche d'abord la cohérence ou la faille ?
Oui, ou pour le dire autrement, dans notre monde où l'info va vite et où on pointe facilement les contradictions de surface, quelle est la valeur d'une méthode qui, elle, essaie d'abord de trouver l'harmonie, le sens profond, avant de conclure à l'incohérence ? Une question à méditer.